Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 26 janvier 95.
La seconde modalité de l'acte, de l'être en acte, qui prend une note spéciale par rapport à l'esprit. Celle-là, l'être existant, Pierre. travers le « je suis » découvrir cette note particulière de, entre guillemets, de l'authenticité du « je suis » ou de l'être sauvage du « je suis ». au niveau de l'être laissé dans l'esprit. Ou l'esprit dans l'essai. Alors vous avez ceci. Mesure mon intérêt. et elle n'est vraie que si elle accepte d'être mesurée par toute réalité. Non seulement le je suis, la réalité de l'homme, mais toutes les réalités. C'est ça qui est fabuleux. Donc, je vois là comment l'être, première modalité d'être, joue ce rôle extraordinaire par rapport à mon intelligence. Que toutes les réalités qui existent,
celui qu'on a vu, qu'on a contemplé, qu'on a touché.
l'assurance de Jean à l'égard de Jésus. Et là, il est témoin. Et c'est son expérience. Donc il se porte garant d'être relatif à celui qu'il a expérimenté et qui passe devant. Et il s'efface devant lui. C'est lui qui regarde. Je peux très bien ne pas avoir eu l'expérience. C'est un autre qui me l'a dit. Qui lui dit avoir eu l'expérience. Alors, si je répète ce que l'autre a dit, je suivrai que si ce que je dis est conforme à ce que l'autre a dit. Et mon intelligence a le droit de chercher la vérité. Et non seulement le droit, mais le devoir. Je n'ai jamais le droit de m'appuyer sur quelque chose d'inauthentique. Je n'ai jamais le droit de construire ma philosophie sur la sincérité de quelqu'un. Parce que ce serait alors la philosophie de quelqu'un, du dire de quelqu'un, et non pas de la réalité. Oui, c'est pour ça que la philosophie de la parole est quelque chose qui n'est pas de la philosophie. Puisque on s'appuie sur le dire de quelqu'un. Le dire de quelqu'un est une réalité. Je te dis ça, j'en ai des témoins, je peux t'affirmer. J'en ai des témoins, j'ai vu ça, j'ai vu cette bête extraordinaire surgir. Je n'ai jamais vu comme ça. La bête de la terre, hein, je l'ai vue, je t'affirme. Il faut se lever très tôt, mais je l'ai vue. Et j'en suis témoin. Et puis il y a la bête de l'eau aussi. Hein. La bête de la terre, elle sort de la prairie. Tandis que la bête de la mer, elle sort du fleuve. J'ai vu ça. Alors, je te le transmets. Et l'autre transmet ça. La vérité du dire de l'autre repose sur le témoignage. Vous voyez, c'est ça être témoin. Être témoin, c'est accepter d'être mesure du dire de l'autre. Autrement, on rapporte une opinion. Et en rapportant l'opinion, souvent, on la rapporte comme si c'était une vérité. Alors qu'il faut mettre le bémol. C'est l'opinion de quelques personnes. Alors je dois voir si l'opinion de ces personnes repose sur la réalité. Autrement, c'est une opinion. L'opinion n'a pas d'autorité. Aucune. L'opinion, c'est l'opinion. C'est la contingence dans l'ordre de l'intelligence. Et l'émergence de la vérité à travers l'opinion, c'est très important ça. Autrement, on érige en vérité ce qui ne l'est pas. Oui, on transforme l'opinion en vérité. Et transformer l'opinion en vérité, ce n'est pas vrai. C'est nous la mesure de la réalité, alors. C'est nous qui venons la mesure de la vérité. Et ça, on fait ça tout le temps, hélas. Et c'est comme ça qu'on vit dans le mensonge. Et qu'on ne rejoint plus le réel. C'est très, très exigeant. C'est pour ça que c'est très, très important, cette seconde modalité de l'être. Être vrai. Être vrai, c'est rejoindre le jugement d'existence et de comprendre que je ne peux construire un dire vrai que sur une réalité vraie que j'ai expérimentée directement ou indirectement. Je l'ai expérimentée directement, j'en suis témoin. Oui, et quand vous dites « je suis témoin », vous érigez comme celui qui est capable d'être mesure de la vérité. moins, c'est affirmer que ce qu'on dit est conforme à la réalité. Là, c'est pour ça qu'on devra préciser. Vous voyez, vous prenez, et ça c'est extraordinaire de voir le jugement de Salomon devant deux dires différents. Quel est le vrai ? C'est revenir à la réalité existante. Yes. elle a vérifié sur ce qu'elle dit est conforme à la réalité. Autrement, elle s'enfonce dans l'opinion. Et en s'enfonçant dans l'opinion, elle n'est plus vraie. Et la dialectique commence. Parce qu'au fond, la dialectique, c'est ça. Je suis source de toutes mes relations. Et c'est moi qui les assemble. Et donc je suis artiste de mon langage. C'est moi qui est l'artiste de mon langage. Alors c'est plus ou moins poétique. C'est plus ou moins vrai. Mais je deviens le nombril du monde autour de moi. Je fais la philosophie de l'opinion, de mon opinion, de mes opinions. Et en faisant ça, je m'enferme dans mes opinions et je ne rejoins plus la réalité. Et c'est un petit examen de conscience merveilleux. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Et au fond, on a le droit de transmettre uniquement la vérité. Pour tout le reste, on se tait. Parce qu'on ne sait pas si la vérité. On n'a pas fait l'enquête. Ou bien, si on veut faire l'enquête et savoir si telle chose qu'on a dit est vraie, c'est encore, on a le droit de chercher ça. Alors on dit, je fais une enquête. Voilà ce qu'on a dit. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est tout à fait différent. Vous ne transmettez pas une opinion comme vraie, mais vous interrogez sur l'opinion de quelqu'un qui vous a dit ça. Alors vous vous interrogez, est-ce que c'est vrai? Et ça, vous avez tout à fait le droit. Ou bien vous considérez, c'est une opinion, je ne suis pas responsable, je me tais. Et ceci pour garder sa liberté profonde. Parce que quand vous considérez une opinion comme la vérité, vous limitez votre champ de recherche. Et vous devenez prisonnier de vos opinions. Et quand on devient prisonnier de ses opinions, notre intelligence ne cherche plus la vérité. Et notre intelligence elle-même arrête sa recherche contemplative de la vérité tout entière. Et il y a là, j'allais dire, une responsabilité très grande de chacun d'entre nous. Si on fait de la philosophie, c'est pour cela. C'est pour être vrai. Et on porte ça en soi. Et on voit à ce moment-là que des quantités de personnes autour de nous vivent d'opinion. Vous voyez, les bavardages des salons. Intolérables. Parce que c'est de l'opinion. Et on fait des super opinions. Et on renchérit l'opinion. Oui. Et au bout d'un certain temps, on n'arrive plus à en sortir. C'est très significatif. Je vous ai dû raconter cette petite histoire, parce que ça, c'était très significatif. À Fribourg, dès qu'il y avait un Français qui venait faire une conférence, on était quasi obligé d'y aller. La confrérie française devait se réunir, écouter, non pas le prédicateur, mais celui qui faisait une conférence. Et quelquefois, on n'avait pas beaucoup de temps, et on aurait bien aimé ne pas y aller. Alors, je me souviens, une conférence d'un jeune Français que je ne nomme pas, qui se préparait à être critique littéraire dans un grand journal. notant tous les mots extraordinaires qu'il dit, dont il ne sait pas véritablement la signification. Bon, j'en ai eu 10. Puis je pointais. C'est un petit jeu, c'est peut-être pas très... C'est très charitable de faire ça. Parce que c'est ne pas entrer dans le jeu des opinions qui repose sur des mots brillants, séduisants, dont on ne connaît pas la signification. À la fin de la conférence, on me dit, venez prendre le vin d'honneur en l'honneur du conférencier. Ah, je dis non, 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 non. Et pourquoi? Ah oui, parce que... Non, non, je serais bien obligé de dire la vérité. Alors, je vais scandaliser tout le monde. Et puis, je vais lui faire peut-être du mal. Oh, venez quand même, ce sera intéressant. Alors, pratiquement, je suis obligé d'y aller. Alors, chacun fait dévoyer les éloges avec le vin, le petit fendant du Valais. Tout le monde fait des éloges. Puis alors, après, moi, je me taisais dans mon coin, j'espérais ne pas ne rien dire. On me dit, père, Philippe, dites un peu ce que vous pensez. Alors, j'ai averti le conférencier. Je ne vous connais pas, mais j'ai assisté à votre conférence. Il m'a semblé que vous disiez des mots très à la mode et que vous en compreniez absolument pas le sens. Alors j'aimerais, vous me permettez que je vous interroge, à la manière de Socrate, quelle est la signification de ce mot? Un grand silence. Il y a eu 10 silences successifs. Alors il a été tragique, c'est là où j'ai vu que c'est... Il m'a serré la main, il m'a dit « Merci père de me dire ça, on m'a jamais dit ça. » Alors moi, ces mots sont séduisants. Je les emploie. Alors j'ai dit « Vous avez parfaitement le droit de les employer dans un examen. » Le professeur n'a qu'à être intelligent. Mais dans une conférence publique, vous n'avez pas le droit. Vous devez savoir que vous prenez le temps. Vous mobilisez le temps d'un certain nombre de personnes. Vous n'avez pas le droit de faire une espèce de feu d'artifice. Vous dites une vérité, vous transmettez une vérité. Tu vois, j'espère que c'est votre désir. Vous voyez ? Et ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Même au plan philosophique, on emploie des mots dont on ne sait pas la signification. Et quand on ne sait pas la signification d'un mot, on n'a pas le droit d'employer. Parce que ça fait, vous voyez, c'est un brouillard. On crée un brouillard entre l'intelligence et la réalité. On crée un mur entre l'intelligence et la vérité. Et c'est le jeu des mots. Vous voyez, on a le devoir de chercher la vérité. Et on a le devoir de communiquer. Alors, un jeune professeur communique la vérité en s'appuyant sur l'autorité des grands, des maîtres vivants ou des maîtres morts. Alors, il s'appuie. Aristote dit ça. Je n'ai pas encore tout à fait compris. Le jour où vous l'avez compris, vous avez le droit de l'employer sans noter Aristote. Et alors à ce moment-là, vous devez être capable de le justifier. Autrement, vous vous appuyez sur l'autorité, c'est ce qu'on fait. Tous, on s'appuie sur l'autorité, parce que c'est une très bonne béquille, l'autorité. Vous voyez, le dire d'Aristote est témoin de la vérité. Parce qu'il est philosophe. Il a cherché la vérité. Donc je m'appuie sur ce qu'il dit. Je n'ai pas encore compris. La parole transmet. La parole communique, c'est tout le problème de la communication de la vérité. Ça va très loin, ça. Et c'est un excellent examen de conscience. Mais j'étais désolé de le faire vis-à-vis de ce jeune, très brillant, extraordinairement brillant. Ça Alors ça avait beaucoup d'intérêt quand on la suivait comme ça. Parce qu'on s'apercevait de tous les échos qu'il prenait. Oui. Alors, cette distinction scolastique est très intéressante. Le vrai ontologique et le vrai et la vérité. Et alors vous voyez, dans cette distinction, la vérité formelle a quelque chose d'unique. L'intelligence formalise en connaissant, comparativement à la réalité, donc par rapport au vrai ontologique. Le vrai formel est plus actuel, existe, et le vrai formel dans l'intelligence. De l'exister par votre verbe, par votre parole. Votre parole n'a pas cette efficacité. Je dis ceci est. C'est vrai si ce que vous affirmez existe vraiment, mais ce n'est pas vrai parce que vous l'affirmez. Mais la cause de la réalité, de l'intentionnalité, échappe à l'intentionnalité. L'intentionnalité n'est pas source d'exister. Mais elle est, alors c'est ça qu'il faut regarder, elle a cette qualité très extraordinaire de mettre en pleine lumière le vrai de la réalité. La réalité est pour la vérité formelle. C'est vrai. Quand je pense au petit caillou, le petit caillou, dans ma pensée, a une noblesse qu'il n'a pas en lui-même. Et cependant, il a en lui une noblesse que je n'ai pas quand j'affirme que ce petit caillou existe. Puisqu'il existe avant moi. Il a sa noblesse d'exister. Et il est source de mon intelligence. Donc, vous voyez, et c'est ça qui est très curieux et très intéressant, c'est que lorsqu'il s'agit de l'être vrai, donc de cette modalité particulière de l'être en acte, cet être en acte au niveau du vrai est double. Celui-ci, la vérité formelle est dans mon intelligence. La vérité ontologique est avant mon intelligence. Ce n'est pas moi qui ai créé cette réalité. Ce n'est pas moi qui lui ai donné sa qualité d'exister. Je constate. Je suis témoin. Mais je suis capable de lui donner une splendeur qu'il n'a pas par lui-même, la splendeur que je le connais. Mon petit caillou, du fait que je le connais, a une noblesse en moi. Et il a attendu ça, il a attendu, ce petit caillou attendait que je le connaisse. Patiemment. Et dès que je le connais, je lui donne une noblesse unique. Il y a une vérité formelle dans mon intelligence. cette dualité? Comment ça se fait? Alors que l'être n'a pas cette dualité. Je suis, j'existe. Et l'autre qui pense à moi, c'est pas moi d'exister. C'est quand même très curieux, cela. Alors, est-ce que ce n'est pas cela qui fonde? Je pose la question. Est-ce que ce n'est pas cela qui fonde? Deux mots, entelecheia et energeia. Entelecheia dépend de energeia, mais formalise energeia. Alors est-ce que ça ne vient pas de là? Donc on aurait le vrai ontologique energeia, le vrai formel entelecheia. C'est le vrai dans mon intelligence a une splendeur que lui donne l'esprit. Puisque l'esprit est fait pour connaître et connaître la vérité. Et donc le vrai formel qualifie mon intelligence et d'une certaine manière finalise mon intelligence. Mon intelligence n'est en repos que quand elle atteint le vrai, que quand elle possède la vérité formelle. Mais cette vérité formelle est toute dépendance du vrai ontologique. Vous voyez comme c'est curieux quand vous cherchez à saisir le vrai, l'être vrai, dans le « je suis », dans mon « je suis ». Je vois tout de suite que mon « je suis » philosophe. crois que c'est là où on comprend la philosophie de Heidegger. Ben, d'une façon générale, quand vous avez affaire à un philosophe, pour essayer de comprendre ce qui en lui est le plus personnel, le plus caractéristique, regardez ses négations. Quand un philosophe nie, c'est très intéressant, parce qu'il affirme quelque chose qui est lui. Il s'affirme en niant. Alors, Heidegger affirme l'être avant le devenir. C'est la noblesse de Heidegger. Mais Heidegger refuse la distinction du vrai ontologique et du vrai formel. Et même, il considère, alors ça c'est la position heideggerienne, mais qui est très intéressante quand on regarde cette modalité de l'être en acte par le vrai. Il considère que tout a été faussé dans l'héritage philosophique avec Aristote, quand Aristote fait cette distinction. Et alors il recherche à quel moment ça a été fait. Et il a une interprétation très intéressante. Dans la République de Platon, sur le mythe de la caverne. Alors, il voit, c'est pas vrai, c'est la projection heideggerienne. C'est comme quand Heidegger commente Parménide, c'est très très intéressant. Parce qu'on découvre Parménide, je crois qu'on découvre Heidegger quand il commente, quand il exprime, quand il interprète la philosophie grecque. Ce serait extrêmement intéressant de regarder Heidegger uniquement interprète de la philosophie grecque. Alors, il considère dans le mythe de la caverne, qui est au cœur de la République de Platon, il considère le premier aspect du mythe de la caverne et le second aspect après. Et il voit que avant, les étangs que l'être se manifeste, se dévoile. La vérité s'est dévoilée. Donc il n'y a plus que le vrai ontologique. Et quand il dit ça, c'est qu'en réalité, il confond le vrai formel et le vrai ontologique. Et il n'y a plus que la vérité ontologique. Il n'y a plus que la vérité formelle. En réalité, mais il dit que c'est l'ontologique. Alors on comprend que l'être que quand il est pensé, en rejetant tout le reste. Et je crois que ça, c'est un moment extrêmement intéressant pour comprendre le point de vue de cette distinction, le vrai ontologique et le vrai formel. Je signale ça parce que ça fait partie de notre philosophie. Je ne peux pas rejeter Heidegger qui suis